refondée, une union qui semble se déliter. Emmanuel Macron y croit. Et il veut même profiter du Brexit pour appeler ses partenaires européens à se ressaisir.
Notre Europe doit précisément être refondée. Pour être mieux comprise de nos peuples et répondre à leurs aspirations. Parce que, très clairement, le Brexit nous dit qu'elle n'a pas su rassurer, protéger suffisamment les peuples de chacun de nos pays.
Cette défiance vis-à-vis du projet européen est utilisée par les mouvements identitaires. À l'image de l'Italien Matteo Salvini, le patron de la Ligue du Nord, qui pour accéder au pouvoir promet de lutter à sa manière contre l'immigration sans tenir compte de l'avis de la Commission européenne. Quitte à ne plus accueillir dans les ports italiens les bateaux qui sauvent les réfugiés en mer.
Il suffira d'un coup de fil aux gardes-côtes pour leur dire qu'avec Salvini au gouvernement, on sauve les gens, mais il n'y en a plus un seul qui débarque chez nous. Ils repartent d'où ils viennent, et si Bruxelles se plaint, eh bien je n'en ai rien à faire.
Face à Salvini et ses alliés populistes, le couple franco-allemand se cherche des projets communs pour relancer l'Europe. En fin d'année, Angela Merkel et Emmanuel Macron plaident ensemble à l'occasion des 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale pour une armée européenne.
To be very direct with you. What I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans and other arms or materials coming from your industry.
Donald Trump se met alors à multiplier les attaques envers l'Union européenne, quitte à s'affranchir de tout sens de la diplomatie.
Emmanuel Macron a suggéré la création de leur propre armée pour protéger l'Europe contre les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais c'était l'Allemagne à force en présence dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les Français commençaient à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent.
Attaqué par Donald Trump et les populistes du vieux continent, le projet européen a-t-il encore un avenir ? Sur quelles valeurs peut-il se refonder ? Les élections de mai prochain peuvent-elles conduire à son implosion ou à une nécessaire clarification ?
Alain Juppé, vous les appelez la coalition des casseurs de l'Europe, ces forces centrifuges et centripètes qui en veulent à l'Europe.
Ils sont nombreux. Il faut refonder l'Europe, il faut d'abord la défendre contre ceux qui veulent la détruire. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un président des États-Unis désigne l'Union européenne comme un ennemi. Bon, on peut relativiser ce propos quand on connaît la personnalité de M. Trump, mais c'est quand même un peu inquiétant. De l'autre côté, Poutine encourage les hostilités en Ukraine. La Chine est plus habile, elle cherche à nous diviser. Il y a les ennemis de l'intérieur qui contestent les valeurs fondamentales de la démocratie européenne, pas le libéralisme, la liberté, l'équilibre des pouvoirs, la liberté de la presse,
la séparation des pouvoirs,
cher à Montesquieu, Bordelais s'il en fut, etc. Donc l'Europe est attaquée de tous les côtés. Ce qui me rassure dans ces consultations citoyennes, c'est qu'il y a quand même le sentiment que séparés, nous deviendrons des vassaux. Et que si nous voulons rester libres, souverains, il vaut mieux que ce soit au niveau européen et que séparés les uns des autres. Il y a aussi l'idée que l'identité nationale n'est pas incompatible avec l'identité européenne.
L'Europe peut exister.
On peut être à la fois français et européen. Et moi, je me sens à la fois français et européen. Après 50 ans d'histoire, les Allemands sont toujours Allemands. Les Français sont toujours Français. Les Italiens sont toujours Italiens. Donc il n'y a pas contradiction entre les deux. Quant aux attaques portées contre l'Europe, ça m'amuse parfois d'entendre le discours de M. Salvini, qui bombe le torse, naturellement. La Commission n'a qu'à bien se tenir. On l'a cité, c'est pour ça que je ne rappelle pas sa qualité. La Commission n'a qu'à bien se tenir. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il file doux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la Commission qui décide. Ce n'est pas les 3% qui sont l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand on a des dettes, il faut les financer. Et pour les financer, on a besoin de prêteurs. Et quand les prêteurs n'ont plus confiance, ben les taux d'intérêt montent. Et M. Salvini est confronté à cette situation. Il se rend compte qu'il doit calmer beaucoup ses ambitions budgétaires s'il ne veut pas aller complètement au dérapage. Donc les règles européennes, ce n'est pas des règles technocratiques. C'est des
règles de
bon sens.
Elles sont ressenties comme ça, souvent.
Eh bien, c'est bien pour ça qu'il faut lutter contre les mensonges, les déformations. Ce n'est pas les gnomes de Bruxelles qui gouvernent à Bruxelles. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Donc la première chose à faire pour l'Europe, c'est de dire la vérité et de ne pas laisser se répandre les mensonges que nous entendons du matin au soir.
Claude,
est-ce que vous avez l'impression d'un combat qui se reproduit ? Il y a un gros quart de siècle, le pays qui doutait de l'Europe, c'était nous. Le mouvement politique qui doutait de l'Europe, c'était le vôtre, le mouvement gaulliste. Et avec Jacques Chirac, aux côtés de Jacques Chirac, vous avez joué un grand rôle pour convertir le gaullisme et donc la France à l'idée européenne. Est-ce que ce combat peut être recommencé, prendre les gens qui doutent et les amener à l'Europe ?
J'ai une petite divergence d'analyse avec vous. Je pense que le général de Gaulle a été un grand Européen.
Je parlais du moment chiracien et du moment du référendum de Maastricht.
Oui, mais vous
n'étiez pas indifférent.
Vous soulignez que Jacques Chirac s'était engagé pour l'Europe dans un mouvement qui avait une tradition pas très européenne. Ça se discute. Enfin, peu importe, c'est l'histoire.
Alors, disons qu'on s'est passé de l'appel de Cochin à l'appel de Juppé.
Oui, mais enfin, il y a eu toujours au sein du mouvement gaulliste aussi Chaban, qui était un grand Européen, et puis Michel Debré, qui était un peu moins Européen. Vous voyez que c'était assez complexe. Mais enfin, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, donc regardons les choses en face. Ouais. Je le répète, il faut redonner une ambition à l'Europe, et il y a fort à faire pour cela. Il faut que le débat des élections européennes, que vous avez signalé tout à l'heure, ne soit pas un référendum pour ou contre le gouvernement de chacun des 27 États de l'Europe, mais un vrai débat sur ce que nous attendons de la construction européenne. Là aussi, je suis parfois moins pessimiste que je ne veux bien le dire. J'ai fait faire récemment, quand j'ai invité mes amis à Bordeaux, un sondage auprès de l'opinion publique française. 70% des Français sont favorables à une armée européenne. Et l'armée européenne, avec l'abonné, c'est ce qu'il y a de plus intégrateur.
Vous voyez que c'est vœu par Emmanuel Macron, il avait appelé à la constitution de l'armée européenne.
Emmanuel Macron, c'est très bien, mais si 70% des Français sont d'accord, c'est encore mieux. Donc ce qui prouve qu'il y a quand même un terreau dans l'opinion publique qui est conscient de ce que l'Europe peut nous amener. C'est la même chose sur l'immigration. Si nous n'avons pas un vrai plan d'action de l'Europe en direction de l'Afrique, nous n'allons jamais construire un mur sur la Méditerranée. Monsieur Trump a du mal à le faire dans le désert du Mexique, ça sera plus compliqué sur la Méditerranée.
On va évoquer ces questions dans un instant, puisqu'un événement a symbolisé en 2018 le repli européen, c'est la disparition des navires, des ONG qui sauvaient les migrants et les réfugiés en Méditerranée. À ce sujet, 2133 personnes sont mortes en Méditerranée en 2018. Est-ce la noyade des valeurs européennes? On en parle avec vous, Alain Juppé, dans un instant. Alain Juppé, on a entendu dans la bouche d'Éric Fassin, l'Europe forteresse est indigne de l'Europe. Dans la bouche d'un autre intervenant, la crise migratoire est derrière nous. Votre sentiment?
Écoutez, j'ai le plus grand respect pour les experts que vous invitez. Ils sont des gens tout à fait considérables. Je me demande ce qu'en pensent les Gilets jaunes quand ils les écoutent. Quand j'entends dire en particulier que nous sommes responsables de la victoire de M. Salvini en Italie, je pense que c'est un peu simplificateur. Et d'ailleurs, dans l'émission, on souligne que Mme Merkel avait aussi ouvert les bras. Résultat, l'AFD, le parti d'extrême droite en Allemagne. M. Sanchez a aussi manifesté beaucoup d'ouverture pour accueillir l'Aquarius. Résultat, pour la première fois depuis 1937, ou en tout cas depuis la chute du franquisme plus exactement, l'apparition d'un parti d'extrême droite aux élections régionales en Andalousie.
Je veux dire par là
que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne veut bien le dire et qu'il faut un peu tenir compte aussi de la sensibilité des peuples. Alors il y a deux choses dans l'immigration. Il y a d'abord les gens qui se noient. Quel être humain normalement constitués, peuvent faire autre chose que d'aller les secourir. Et de faire en sorte qu'on puisse les accueillir en Europe. Et la France doit en prendre sa part naturellement. Il y a le problème des réfugiés.
43 000 migrants accueillis en 2017 en France, c'est peu.
Nous avons délivré en 2017 260 000 titres de séjour. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que l'essentiel, c'est le regroupement familial et les étudiants. On pourrait en parler d'ailleurs. Donc les réfugiés qui sont persécutés dans leur pays d'origine pour leur religion, pour leurs idées politiques, pour la couleur de leur peau, nous avons une obligation morale d'abord, républicaine et ensuite juridique de les accueillir. Et nous le faisons plus ou moins bien, avec plus ou moins d'inégalités en Europe, mais nous le faisons. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est l'immigration économique. Et là, je le dis comme Michel Rocard l'a dit en d'autres temps, l'Europe n'a pas la responsabilité morale de donner du travail à tous ceux qui en cherchent. Et l'immigration...
Mais les situations ne sont-elles pas imbriquées? Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il y a les demandeurs d'asile d'un côté et les migrants?
C'est pas aussi simple que je veux bien le dire, mais c'est quand même un clivage tout à fait fondamental. Quand on vient d'un pays démocratique, on n'est pas persécuté, a priori. Et donc on ne relève pas du droit d'asile. C'est quand même un critère qui est assez simple à appliquer. Et quand j'entends dire que la crise migratoire est derrière nous, je dois dire que les bras m'en tombent. Il y aura en Afrique, je le disais tout à l'heure, 4 milliards d'habitants, si les prévisions se vérifient, et compte tenu du taux de natalité en Afrique, elles se vérifieront vraisemblablement à la fin de ce siècle.
Il y aura surtout des réfugiés climatiques.
400 à 500 millions, ou un petit peu plus, au seul Nigeria, alors que l'Europe est aujourd'hui à 500 millions d'habitants. La moitié de cette population a moins de 25 ans. Si nous ne sommes pas capables de donner à ces jeunes la possibilité de vivre au pays comme ils le souhaitent, de trouver du boulot chez eux en investissant massivement en Afrique, eh bien nous ne construirons pas de mur sur la Méditerranée. C'est pour ça que la crise migratoire, elle est devant nous. Il faut donc prendre ce problème à bras le corps. J'appelle par exemple les entreprises françaises, y compris les PME, à s'intéresser davantage à l'Afrique. C'est d'abord leur intérêt. Il y aura des marchés. Aujourd'hui, les Chinois investissent massivement. Les Turcs investissent massivement en Afrique. Voilà une des solutions profondes, pas de court terme, Claude, de moyen terme, mais absolument incontournable.
Alain Juppé, vous parliez de l'extrême droite en Allemagne, en Espagne, on peut en parler en France. Que valons-nous, nous, peuples européens, si quand la misère frappe à notre porte, notre seule réaction est de devenir fasciste ou pré-fasciste, si nous ne sommes pas capables, européens, de faire le dixième de ce que font des pays beaucoup moins riches que nous, comme la Jordanie ou le Liban. C'est à l'homme de valeur que je m'adresse aussi.
Restons sérieux. Vous croyez que la Jordanie et le Liban font ça de gaieté de cœur?
Mais ils le font.
Ils le font par contrainte, voyons. Ça n'a strictement rien à voir. Ils sont à la frontière. Donc, demandez aux Libanais ce qu'ils pensent de la situation actuelle ou aux Jordaniens.
Est-ce que nous ne perdons pas ce qui fait le prix de l'Europe, les valeurs que vous défendez? Et c'est un homme qui refuse la démagogie sur ces questions que je m'adresse.
Je suis sûr que nous devons rester fidèles à nos valeurs, bien entendu, et je l'ai dit s'agissant du droit d'asile. Mais il y a aussi, dans une démocratie, des équilibres à trouver. Et je pense que nous ne pouvons pas dire à la terre entière que nos frontières sont ouvertes. Je crois que la simplification d'un côté comme de l'autre est porteuse de graves déconvenue sur le plan politique.
Avançons.
Je crois que la France assume son rôle, elle doit l'assumer peut-être mieux, être plus généreuse. Je préfère vous dire que sur le territoire, nous sommes accueillants aux populations qui sont persécutées et que nous accueillons. On a accueilli dans le Bordelais des familles chrétiennes venues de Syrie, peut-être pas assez, je veux bien l'admettre. On peut faire des efforts supplémentaires, mais là-dessus, je pense que nous assumons nos responsabilités. Jusqu'où allons-nous aller? Sommes fondés, oui ou non, à dire que nous ne pouvons pas accueillir la totalité de ceux qui veulent travailler chez nous? Et il faut distinguer la situation selon les pays. Ouais. L'Allemagne est en situation de déficit démographique, France. Il faut donc des politiques, là aussi, qui soient adaptées, à la situation de chacun.
Gardons du temps pour la suite. On va y payer, vous preniez des notes, frénétiquement.
Et la conclusion que j'en tire, c'est qu'on a du boulot à faire. Hein. Oui. Pour rétablir un certain nombre de réalités et de vérités. Les marchés financiers, bon, très bien, on est tous contre. Hein. Monsieur Hollande s'est fait le spécialiste de la lutte contre la finance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'emprunter de l'argent, parce qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont de l'argent à leur prêter. Alors c'est comme ça, c'est ça les marchés financiers. On peut décider qu'on va confisquer l'argent de ceux qui en ont, pour le donner à ceux qui en ont besoin. C'est possible. Il faut en mesurer les conséquences. Et puis, ce qui me frappe aussi, on parle beaucoup de démocratie, c'est parfait. Enfin, M. Tsipras est élu en disant qu'on va voir ce qu'on va voir et qu'il va faire plier l'Europe. Le lendemain du référendum, il se conforme à la quasi-totalité des demandes que lui présente l'Europe. Et il a bien fait parce que son pays est en train de s'en sortir, comme le Portugal.
Mais le peuple grec a bon droit, peut considérer qu'il a été floué et que l'Europe a tordu le bras de la démocratie. Etc.
Le peuple grec peut-être va en tirer le bénéfice parce que la situation économique de la Grèce est en train de se rétablir.
Hein. Et c'est après ça des aussi années de sacrifices.
Après des sacrifices après considérables, c'est considérables. Bien vrai. Mais aussi après des erreurs considérables. Hein. Dans la gestion de la Grèce. Bon, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois la démocratie a bon dos. Monsieur Salvini et le mouvement 5 étoiles ont fait campagne les uns contre les autres, avant l'élection. Le lendemain, ils se mettent ensemble pour défendre un projet qui n'a ni queue ni tête.
À propos de Matteo Salvini.
C'est pour ça que la défense de la démocratie par ces mouvements populistes, il faut la relativiser.
Ça s'appelle des coalitions parlementaires.
Oui, bien sûr. Ben, c'est pareil en Allemagne. Quand on nous vante les mérites de l'élection, du scrutin proportionnel, en Allemagne, avant les élections, le SPD dit plus jamais de coalition avec la CDU-CSU. 6 mois après, coalition. Vous voyez que le scrutin proportionnel n'est pas gage de démocratie.
Claude, imposez-vous.
Je voudrais simplement.
Juste une question. Des pays comme le nôtre, s'il n'y a pas de renversement de régime chez nous, vont vivre de manière durable.
Il y en a eu.
Vont vivre de manière durable avec des gouvernements de type autrichien ou de type italien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de diplomatie à mettre à côté du discours sur les valeurs pour apprendre à fabriquer l'Europe avec des gens comme M. Salvini qui, selon vous, ne sont pas de vrais Européens?
Mais on fait plein de diplomatie. À Bruxelles, on finit toujours par s'arranger. Donc la Commission est très arrangeante, bien sûr. Il ne s'agit pas de se déclarer la guerre, mais il faut être ferme sur les valeurs.